Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, émission consacrée aux élections législatives. Le niveau élevé d'abstention chez les jeunes n'est pas une nouveauté. Les jeunes vont aux urnes pour l'élection présidentielle, mais ils se mobilisent très rapidement même pour les législatives qui arrivent peu après. Ceux qui s'abstiennent font partie d'une jeunesse qui, au moment où elle accède au droit de vote, est déjà désillusionnée et ne croit plus que la sphère politique peut les aider à améliorer leur quotidien. Cela doit mettre les politiques face à la nécessité de donner aux jeunes des raisons de participer au vote. Grâce à l'initiative de la mission locale de Nevers-Sud-Nivernais et son chef de projet Christine Boguet, plusieurs candidats de la première circonscription de la Nièvre ont accepté de répondre sur notre antenne à quelques questions posées par un jeune pour l'occasion, à savoir Damien Vacher. Monsieur Damien Vacher, bonjour.
Bonjour.
Vous allez interroger à tour de rôle deux candidats, monsieur Guillaume Maillard pour l'UDI Les Républicains et Mohamed Lagribe pour La France qui ose. Monsieur Damien Vacher, votre première question à monsieur Maillard.
Guillaume Maillard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes candidat de Les Républicains UDI pour cette élection. Vous avez fait une alliance, c'est cela ?
C'est exact. Je suis candidat UDI avec le soutien des Républicains. Donc, on a, sur la première circonscription de la Nièvre, réussi à avoir une candidature d'union du centre et de la droite républicaine.
Alors, dans votre programme, que comptez-vous mettre en œuvre pour assurer un meilleur avenir aux jeunes sur le territoire ? Et notamment pour favoriser l'emploi des jeunes.
Alors c'est une vaste question et la réponse est évidemment difficile à synthétiser en quelques minutes. J'ai écrit un manifeste de l'alternance que je vous invite à lire qui résume un projet de territoire. Je pense que pour permettre aux jeunes de rester dans la Nièvre, il faut leur permettre d'avoir une vraie vision de la Nièvre, de comprendre l'attractivité de notre département. Des actions très court terme peuvent être menées, qui sont des actions liées évidemment à la formation. Il existe des formations de différents niveaux dans la Nièvre et qui plus est dans la première circonscription. On peut faire un BEP, on peut faire un bac pro, on peut passer son bac, on peut faire un BTS, on peut faire une formation complémentaire d'initiative locale, on peut faire des études de droit, on peut faire une école d'ingénieur, on pourra peut-être demain faire une première année de médecine. C'est un projet sur lequel on travaille. On pourra à la rentrée de septembre faire une école d'ergothérapeute, donc une école d'ergothérapie qui va ouvrir ses porte à 9h. Donc progressivement, il y a des formations qui se développent sur la Nièvre et c'est vrai que c'est un premier step, si je puis dire, le plus logique, qui est d'essayer de permettre aux élèves et aux étudiants de pouvoir, après leur formation initiale, trouver leur voie sur le département. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'idyllisme et se dire qu'on peut faire carrière ou qu'on peut faire de grandes études dans la Nièvre. Il faut à toute proportion garder chacun à son niveau et chacun en fonction de ses compétences et de ses souhaits peut rester dans la Nièvre, trouver un travail dans la Nièvre ou peut partir faire d'autres études plus tard pour revenir. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au niveau départemental, au niveau régional, mais également au niveau national, sur les textes, sur les incitations que l'on pourrait avoir pour permettre à des jeunes nivernais, parce que nous sommes dans la Nièvre, de partir faire leurs études ailleurs et pourquoi pas de revenir dans la Nièvre à travers une sorte de PAC innovant que l'on pourrait avoir entre l'État et les régions et les départements qui permettent aux élèves tout simplement de se financer leurs études. Il existe des initiatives, je regardais tout à l'heure une initiative que j'avais trouvée très intéressante, MobiliJeune, qui permet de proposer des dispositifs d'accompagnement aux étudiants avec des aides au loyer, des aides au transport, des aides à la culture, qui sont des aides qui permettent peut-être de mieux affronter le quotidien. Et un sujet qui me tient à cœur, c'est le permis de conduire. Parce que je m'aperçois aujourd'hui en tant qu'employeur, parce que je suis chef d'entreprise à titre professionnel, mais également en tant que parent, que passer son permis de conduire, c'est un coût, ça prend du temps et que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc avoir son permis de conduire peut être aider à des départements comme le nôtre à avoir accès au permis de conduire plus facilement pour pouvoir se mouvoir, c'est également important. Développer également les modèles un peu plus modernes de mobilité, tels que BlaBlaCar, c'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de débattre avec des étudiants de l'ISAT qui utilisent beaucoup BlaBlaCar pour leur quotidien et pour toutes les semaines. Donc il faut évoluer avec son temps. Après, je pense que pour faire court et synthétique sur les formations, il y a également la formation de l'apprentissage, la formation à la carte. Je suis un militant de la formation à la carte. Il y a des entreprises dans la Nièvre, il y a un tissu industriel qui existe, il y a un tissu également de tourisme, il y a un tissu de service, il y a un tissu agricole, il y a un tissu d'économie locale qui est présent, même si il est à mon sens pas assez développé, mais ça prendra des années à reconstruire. Il faut adapter à la carte les formations. Il y a des lycées professionnels, j'étais au lycée Pierre Bérégovoy à Nevers il y a quelques temps, où on a salué une initiative d'une entreprise du Manicourt qui a développé une formation à la carte avec la Maison de l'Emploi, avec le lycée professionnel, sur des sujets bien spécifiques, sur des métiers bien spécifiques. C'est permettre à des demandeurs d'emploi qui sont un peu éloignés de peut-être de se former de façon plus spécifique et d'être assurés d'avoir un travail sur place qui leur convienne. Donc je pense qu'on va rentrer progressivement, que ce soit au niveau national, régional et départemental, sur des formations très ciblées à la carte, à la demande des employeurs. On est dans un cycle où il y a tellement de formations qui se cooptent, qui s'entrechoquent, que même les élèves des fois ont du mal à s'y retrouver. Je pense que c'est au final l'employeur, le prescripteur de l'emploi, qui peut-être est le meilleur visionnaire de la formation adaptée à son futur employé ou à son futur apprenti. Donc il faut accompagner ces actions. Je parlais tout à l'heure des formations complémentaires d'initiative locale. Sur le Technopôle de Manicourt que je préside, on a une formation complémentaire d'initiative locale que l'on a développée avec le lycée Notre-Dame pour permettre à des élèves qui sortent du lycée Notre-Dame d'avoir une formation spécifique au sport mécanique. Et c'est une formation d'un an et ça fonctionne très bien. Ça permet à des étudiants de devenir salariés d'entreprise sur Manicourt avec de vraies compétences. Et enfin, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, et j'en côtoie par moments à titre personnel et à titre professionnel, c'est revenir sur les fondamentaux, apprendre à lire, à écrire, et surtout à se connecter et à vivre dans le monde du numérique. Au CCAS de Nevers, au Centre Communal d'Action Sociale, on a développé un atelier numérique, et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Alors certains d'entre nous sont plus démerdes, si vous me permettez l'expression, que d'autres. Il y en a qui ont plus de mal avec les réseaux sociaux, avec l'ouverture formidable qu'offre le digital. Et il faut absolument qu'on arrive à permettre à ces jeunes de revenir à l'accès à l'écriture, à l'accès à la lecture, à l'accès également à la formation et à la culture, parce qu'un employeur cherche des employés qui sont certes compétents dans leur domaine, mais qui sont aussi équilibrés et qui ont la capacité à raisonner et à s'épanouir. J'ai le sentiment par moment qu'une certaine partie de la population, qui plus est dans notre département, qui souffre de manque de fondamentaux. Et c'est un sujet législatif, c'est un sujet digne d'une assemblée nationale où on pourrait, sur des départements bien spécifiques comme la Nièvre, où on voit que la démographie va dans le mauvais sens, on voit encore qu'on a perdu des habitants, qu'on est un département qui se dépeuple le plus en 5 ans. C'est franchement pas une belle médaille, mais c'est une réalité, il faut y faire face et peut-être arriver à mettre les bouchées doubles et à permettre d'appuyer sur ces actions qui permettent, dans une cohérence globale, employeurs, étudiants, habitants, d'arriver à mieux travailler ensemble et à trouver un emploi demain et à rester dans ce beau département.
Alors Guillaume Maillard, revenons un petit peu sur un thème que vous venez d'aborder. Pour assurer des services au quotidien plus performants, qu'est-ce que vous pourriez proposer ?
Des services au quotidien à l'encontre de...
Des citoyens nivernais, comme vous avez dit, justement, en termes d'accès à l'emploi, ou comme dans certaines communes, il y a justement des bureaux de poste qui ferment, des commerces qui ferment. Qu'est-ce que vous pouvez apporter sur ce point spécifique ?
Alors, des bureaux de poste qui ferment, des commerces qui ferment, c'est encore une fois lié aussi à la démographie qui est terrible. La perte d'attractivité de la Nièvre est avérée. Les habitants nivernais ont leur propre vision de la Nièvre qui, à mon sens, est insupportable. Quand on considère que la Nièvre est en perte de vitesse et vieillissante, il faut absolument que l'on contre cette idée. Je rappelle aux auditeurs que la Nièvre a une population qui est 10% plus âgée que le reste des départements en France. Donc c'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on parle des jeunes aujourd'hui. Alors après, l'accès, la chance extraordinaire que l'on a tous, c'est le numérique, c'est le digital. Mais qui dit numérique dit digital, on n'a pas tous la 3G et la 4G. Il faut déjà avoir le très haut débit, il faut avoir le WiMAX, il faut avoir la possibilité dans les zones les plus reculées de la Nièvre, et nous sommes dans le Morvan ici, aux portes du Morvan, il faut avoir la capacité pour les habitants, pour les employeurs, pour les écoles, pour les postes, pour toutes les organisations, les hôpitaux, d'avoir la possibilité de travailler dans un confort, dans un droit, je dirais, du très haut débit, qui est nécessaire à pouvoir sauver nos campagnes. Après, pour ce qui est des actions de proximité, il faut absolument que l'État, la région, le département se mettent ensemble. Il existe aujourd'hui des infrastructures, il existe les missions locales, il existe les maisons de l'emploi, il existe Pôle emploi, il existe les centres communaux d'action sociale, il existe pléthore d'organisations pour accompagner à la réinsertion et à l'accès à l'emploi. Il existe le numérique d'un autre côté. Maintenant, il faut arriver à ce que tout ça se coopte et au service des habitants. Il y a la santé médicale, la désertification médicale, y compris dans la première circonscription, est un vrai drame. C'est un sujet qui fait peur à l'être humain que je suis, qui fait peur au père que je suis, pour les enfants, pour les habitants. C'est bien beau de faire des maisons médicales. J'entends que des candidats En Marche parlent de maisons médicales, mais ça existe. Il y en a, je crois, dans le département de la Nièvre plus qu'ailleurs. Encore faut-il qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait des médecins qui arrivent et qui soient heureux de soigner les patients. Et puis peut-être qu'il faut aussi aller un step plus loin, c'est d'arriver à pas faire de l'automédication, parce que ce serait un drame, mais être beaucoup plus virtuel sur certaines approches de bobologie bénigne. C'est peut-être arriver à communiquer avec Internet, avec le digital, avec des spécialistes, avec des médecins, sur la base d'une prise de sang, sur la base de premiers symptômes, pour permettre peut-être d'identifier la gravité du problème. Après, on n'empêchera jamais une maman de devoir accoucher, donc il faut absolument que les hôpitaux restent en place, on ne peut pas fermer des services et avoir une rupture avec la population. Il y a deux sujets sur lesquels je ne négocie pas, et c'est quelque chose que j'invite tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques à adhérer, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, pour moi, c'est le ferment de la société. Sans éducation, il n'y a pas de société. Et c'est la santé. On ne négocie pas avec la santé. On est tous amenés à avoir besoin d'un soin. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas négocier. Quand on a l'éducation et quand on a la santé, le reste, c'est des problèmes de la vie et qu'il faut arriver à gérer.
Revenons un petit peu sur votre parcours. Vous êtes adjoint au maire de Nevers, vous êtes conseiller régional. J'aimerais savoir si vous êtes élu député, vous allez vous entourer d'une équipe particulière, de vos proches, de collaborateurs, d'assistants, de citoyens pour vous aider à organiser votre mandat.
Alors, c'est pas si je suis député, c'est quand je serai député, puisque j'ai la ferme intention de porter la Nièvre au plus haut de la nation. Effectivement, il y a une nécessité d'avoir une présence locale, au quotidien. Donc j'ai pris des engagements déjà écrits, puisque vous savez que la règle du non-cumul des mandats et la réalité de la vie vous appellent au quotidien, que les journées ne font que 8 heures et avec la nuit 24 heures. Donc je démissionnerai de mon mandat d'adjoint au maire de Nevers et de mon mandat de conseiller régional pour me consacrer pleinement à ma tâche de député. Je l'ai écrit et ce n'est pas une surprise. Je resterai conseiller municipal à Nevers puisque cette ville me tient à cœur et j'y suis très attaché en tant que Neversois maintenant depuis 10 ans. Pour ce qui est de la présence locale, je me suis engagé également à m'entourer d'une équipe d'attachés parlementaires et d'une équipe de citoyens qui sont des citoyens de ma famille politique et de ma sensibilité politique, d'assurer une fois par semaine en alternance une permanence au nord et au sud de la circonscription pour rencontrer les Nivernais. Et je souhaite également innover, je travaille avec les jeunes de ma sensibilité politique, donc il y a une équipe jeune avec Guillaume Maillard qui s'est structurée sur la première circonscription. Je souhaiterais mettre en place une plateforme collaborative. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, le numérique est aux portes de tout, et je pense qu'il faut innover aussi dans la relation avec le citoyen. Il faut dédiaboliser l'image du politique, il faut l'humaniser, et il faut surtout rendre des comptes, puisqu'on est sur des mandats, on n'est pas sur des métiers, et qui dit un mandat dit une durée limitée, à mes yeux. je ne ferai sûrement pas de la politique toute ma vie. J'ai 43 ans depuis quelques jours. Ça fait 20 ans que je travaille. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie automobile. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur dans la Nièvre. Peut-être qu'un cycle de 10 ans, c'est quelque chose de raisonnable pour mener une action politique de fond. Mais en tout état de cause, la relation avec le citoyen et la notion de plateforme participative, je suis très attaché à ce qu'on la mette en place avec les jeunes.
Cette plateforme participative avec justement les citoyens de la Nièvre, c'est une des choses que vous mettriez en place pour favoriser les échanges avec vous en tant qu'élu et les citoyens, mais vous avez aussi sans doute d'autres initiatives ?
Tout à fait. Alors, cette plateforme, elle n'est pas juste là pour exister. C'est une plateforme qui doit vivre. Donc, pour la faire vivre, il faut du monde. Donc, il faudra effectivement que les sympathisants et mon équipe travaillent sur cette plateforme. L'idée, c'est d'échanger avec les citoyens sur les textes de loi, sur les orientations qui sont prises. Parce que je rappelle qu'à l'Assemblée, on est là pour décider de l'avenir et de légiférer sur des textes de loi. Peut-être que les citoyens préféreraient s'exprimer. Alors, on ne pourra pas toujours être d'accord, parce qu'il y a forcément une synthèse à faire. Mais au moins avoir leur point de vue. Pas une notion de référendum, mais une notion de point de vue synthétique sur des sujets bien précis, et plutôt que de regarder la télé ou de chatter ensemble, et ben c'est peut-être d'échanger ensemble et d'être peut-être constructif, parce qu'un élu, il est là pour représenter la députation à l'Assemblée nationale, et là pour représenter la Nièvre au plus haut de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale est là aussi pour prendre en considération la Nièvre. Donc il faut que ce soit interactif des deux côtés. Et évidemment, pour revenir à votre deuxième question, je mettrai tout mon poids, tout mon réseau, toute mon expérience de chef d'entreprise et d'industriel, je dirais une partie de ma vie, parce que c'est la vie qui apporte la richesse demain, au service de la Nièvre. C'est peut-être travailler à l'implantation d'entreprise, c'est peut-être apporter de nouveaux services, c'est peser avec les autres élus du département sur des actions spécifiques pour la Nièvre. Je rappelle que la Nièvre est dans une situation difficile et il faut en avoir conscience. Je pense qu'il faut faire face à nos réalités et ensemble, avec tous les élus de toute sensibilité politique, j'essaierai de faire comme j'ai fait à Nevers, c'est d'essayer de travailler ensemble pour le meilleur de la Nièvre.
Revenons un petit peu à un sujet qui semble vous intéresser, c'est justement la moralisation de la vie politique. Il y a un projet de loi qui a été annoncé justement, qui annonce la fin de la réserve parlementaire. Comment allez-vous soutenir les entreprises, les associations, les agriculteurs locaux avec la fin annoncée de cette réserve ?
Alors, avant d'aller au bout de la démarche, il va falloir que le nouveau président de la République et son équipe temporaire attendent que les élections législatives aient parlé, que l'Assemblée se forme, qu'il y ait un vrai gouvernement qui se mette en place. Mais en tout état de cause, cette loi sur la moralisation politique, elle est nécessaire aux yeux des citoyens. Elle est naturelle à mes yeux. Vous touchez un sujet extrêmement intéressant, c'est que la réserve parlementaire ou la réserve sénatoriale, d'ailleurs, parce qu'il y a certains sénateurs qui ont également des réserves, aller distribuer la dîme ou aller distribuer de l'argent pour essayer d'aider ponctuellement quelques actions, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose qu'on ait créée, puisque ça peut créer du clientélisme, ça peut créer de l'addiction. Je pense qu'il faut qu'on rénove la réserve parlementaire, peut-être en ayant de nouvelles dotations, qui soient des dotations qui soient réfléchies, ciblées sur le département, liées à des projets de fonds, qui soient des projets partagés. Je suis contre ces réserves qui sont un peu distribuées à discrétion de chacun et encore une fois qui créent des fois des relations humaines qui ne sont pas saines pour le département. Donc je suis convaincu qu'une fois à l'Assemblée, on arrivera à travailler sur une nouvelle façon d'accompagner les citoyens de façon plus transparente.
J'ai cru comprendre que vous seriez favorable pour une baisse de la majorité pénale à 16 ans et la création aussi pour les jeunes de créer leur entreprise à 16 ans. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple de baisser l'âge de la majorité à 16 ans avec le droit de vote ?
C'est un bon sujet. Est-ce qu'on est suffisamment mûr à 16 ans pour voter en son âme et conscience ? C'est un sujet où j'ai pas la réponse aujourd'hui, effectivement. On voit que l'évolution sociétale fait que les jeunes sont de plus en plus avertis par les réseaux sociaux, par l'accès à la culture. On voit que les jeunes grandissent plus vite, sont plus mûrs. Il y a peut-être une réflexion effectivement à avoir pour étendre à 16 ans d'autres responsabilités effectivement que celles que vous venez d'évoquer. Maintenant, je rebondis sur votre question pour appeler les gens à aller voter. Parce que avant de parler de baisser la majorité du vote, qui peut être une très bonne chose, c'est comment redonner goût aux gens pour aller voter. je suis fatigué de croiser des habitants dans notre beau département qui ne s'intéressent plus à la politique ou qui la voient perverse ou des fois éloignée de leur quotidien. Il faut que les gens aiment la politique de nouveau, parce que voter, c'est la démocratie. La démocratie, c'est une chance. Il y a des pays encore dans le monde qui n'ont pas de démocratie. Et quand je vois la faible participation qu'il y a eu en Angleterre la semaine dernière, je parle des élections législatives avec, il me semble, 81% d'abstention, c'est presque hallucinant de voir qu'il y a à peine 20% de votants sur une élection aussi importante. Et j'en profite, je ne sais pas si les auditeurs seront bien conscients de ce que je vais dire, mais on vous explique qu'il y a des raz-de-marée de certains mouvements politiques. Il faut le relativiser avec l'abstention. Justement, l'abstention est le pire ennemi de la démocratie. Donc, tout cela est un tout. Et pour finir avec votre question, je prends le point et je le soumettrai en tant que futur député, peut-être à un groupe de travail, parce que je pense que c'est pas idiot. Parce que je croise des jeunes au quotidien depuis un certain temps. Et c'est vrai que vous avez, pour la plupart d'entre vous, vos idées bien arrêtées sur la société de demain. Et peut-être que vous êtes plus mûr que je ne l'ai été à mon temps.
Certaines propositions que j'ai pu lire parlent de compétences de la ville ou du département ou de la région ou de l'Europe. Est-ce que, en tant que député ou futur député, vous pensez pouvoir agir positivement sur ces leviers locaux ?
Oui, parce que je suis élu depuis 3 ans. Je suis en politique depuis très, très récemment. Par contre, j'ai compris la mécanique, j'ai compris la méthodologie, cette fameuse loi NOTRe, qui est la fameuse loi de modernisation, on va dire, des répartitions des rôles entre les différentes collectivités, l'État, les régions, les départements, les agglomérations. Je ne suis pas forcément sûr que cette loi NOTRe ait été bien anticipée, puisque les départements existent toujours et on voit qu'il y a beaucoup d'étages dans la fusée. Il faut influer pour essayer de moderniser dans la simplification et dans la compréhension des acteurs, de la culture, de l'économie, de l'école, qui fait quoi et comment être efficace au quotidien. Je pense qu'il y a un gros, gros, gros choc de simplification, on en a beaucoup parlé, mais il faut le faire, parce que les mots c'est bien, mais l'action c'est mieux.
Comment allez-vous faciliter l'accès à la culture ? Justement, dans la Nièvre, il y a un dispositif qui est la J-Box, qui est porté par le conseil départemental, au niveau justement du député que vous souhaiteriez être. Comment faciliteriez-vous l'accès à la culture ?
Alors, la J-Box, je trouve que c'est une très bonne chose. Rien n'est parfait, mais je trouve que c'est une très bonne initiative. Elle est plutôt bien perçue par les jeunes et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. L'accompagnement type J-Box ou ce que j'évoquais tout à l'heure, Mobili Jeunes, c'est tout le temps la même idée, c'est d'essayer de favoriser l'accès à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément le rayonnement à la culture. La culture, c'est une économie. La culture, c'est une économie utile. La culture, c'est vaste. C'est pas juste une culture obscure ou une culture secondaire, c'est concrètement pour moi la cimentation d'une société, puisque la société a une histoire, elle a un devenir, et la culture elle est souvent symbole d'enrichissement et également de paix entre les uns et les autres. Donc l'accès à la culture, il est extrêmement important, qui plus est dans des départements ruraux comme les nôtres. On dit toujours qu'il y a deux France, qu'il y a la France des métropoles et la France de province. Il y a également peut-être maintenant 2 Nièvres ou 2 départements. Il y a le département, on va dire, urbain ou périurbain, puis le département plutôt rural. Et l'accès à la culture, il faut le sanctuariser. Il faut le sanctuariser au maximum parce que c'est quelque part, pour les aînés, pour les plus jeunes, pour toutes les tranches d'âge, c'est la possibilité de voir autre chose et d'apprendre qu'autour de nous, il y a d'autres civilisations, d'enrichir aussi la créativité. Je ne suis pas spécialiste de l'action culturelle. Par contre, à la ville de Nevers, un exemple, je travaille extrêmement bien avec l'adjointe à la culture. Je suis adjoint au métier d'art et on mène des actions ensemble. J'ai mené l'action de l'arrosoir à Nevers, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est une action qui lie culture et économie. Et bien, c'était une initiative de ma part, conjointement avec l'association des commerçants de Nevers, les vitrines de Nevers. On a mené cette action à la fois à la culture et l'économie. Ça permet aux uns et aux autres de se retrouver autour de projets. Maintenant, en tant que législateur, il faut contrer l'idée que la culture est un coût. elle est peut-être un coût par moment, mais il faut qu'elle soit utile. Donc je dirais que c'est comme à l'échelle d'une ville, c'est peut-être qu'il faut mieux comprendre les actions culturelles, peut-être faire table rase et être beaucoup plus objectif sur ce qu'il faut aider financièrement et logistiquement. Il y a des actions culturelles dans la Nièvre, la Nièvre est assez riche en actions culturelles et c'est tant mieux. Je souhaite absolument que ce soit maintenu et pas dévoyé pour des raisons que je n'imagine même pas.
Vous êtes favorable justement à une amélioration de la loi Hadopi, un renforcement justement de la loi Hadopi. Malheureusement, pour certains jeunes, c'est difficile d'acheter justement, d'aller au cinéma, d'acheter des films, de participer financièrement à la culture. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à tous ces jeunes qui justement n'ont pas forcément les moyens de payer la culture comme elle devrait l'être ?
Tout à fait. Alors la loi Hadopi, effectivement, c'est quelque chose qui protège quand même les créateurs. Et les jeunes peuvent devenir un jour favorables à la loi Hadopi dès l'instant où ça va leur servir. Je suis également pour qu'on lutte contre la cybercriminalité, le Darknet et compagnie. Là, je pense qu'aujourd'hui, on voit les drames que l'on vit dans nos sociétés depuis quelques jours, depuis quelques mois. Petite parenthèse sur le terrorisme, je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une fracture sociétale, mais c'est qu'on a peut-être aussi une mauvaise appréhension, une mauvaise maîtrise des réseaux sociaux qui sont devenus une arme colossale que l'on maîtrise peut-être mal, et je pense qu'il est urgent que l'on ait une action européenne sur la protection de nos concitoyens. Pour revenir à votre question, évidemment, il faut que les jeunes aient accès au maximum à la culture à travers les réseaux sociaux. Donc s'il faut mener une action dans l'esprit de ce qui a été mené avec la J-Box dans la Nièvre, il y a peut-être une action bien particulière à mener. Ça pourrait être le début d'une réflexion à travers la plateforme collaborative que je veux mettre en place avec la citoyenne, avec les jeunes, c'est peut-être, dites-nous comment vous voyez les choses. Alors, ne rien payer, c'est facile. Je ne suis pas favorable au taux gratuit. Je pense que tout a un coût et dès le plus jeune âge, il faut apprendre qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Ça, c'est ma philosophie. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens, donc il faut être raisonnable. Et il ne faudrait pas que les jeunes ne puissent pas avoir accès à la culture à cause d'une barrière financière. Si c'est là votre question, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont souvent en décrochage. C'est peut-être eux qui ont le plus besoin d'avoir accès à la culture. Donc, il faut arriver à équilibrer les choses. Mais me concernant, je suis à l'écoute pour ne pas être dans la brutalité et plutôt dans la réflexion constructive.
J'ai quelques questions de société. Êtes-vous pour la dépénalisation du cannabis ? Ça peut poser un énorme problème vu que la France répréhende le plus le cannabis et paradoxalement est un des pays les plus consommateurs de cannabis.
Je suis pas favorable à la dépénalisation du cannabis. Je pense que c'est un mauvais signe donné à la société. Je pense que ce serait vraiment pas une bonne chose. On a déjà suffisamment de problèmes de cohésion, de problèmes de projets communs pour notre pays. Je suis absolument pas favorable. Je pense qu'on n'est pas prêt. Et les jeunes ont assez de sujets à traiter. Après, j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains qui en profitaient malgré le fait que c'était pas pénalement autorisé. Donc
êtes-vous pour la gestation pour autrui, pour les femmes qui, malgré une assistance médicale à la procréation, ne peuvent pas avoir d'enfants ?
Sur ce sujet-là, je pense que c'est au cas par cas. La gestation pour autrui, c'est un sujet sur lequel je suis pas forcément favorable.
Et enfin, pour conclure, quelle est la vision d'avenir que vous proposeriez aux jeunes du département ?
Lire mon manifeste pour l'alternance et se prendre en main. Je pense que la jeunesse, c'est vous l'avenir. Je parle déjà peut-être comme quelqu'un d'un peu plus expérimenté. J'ai eu 43 ans il y a quelques jours. Et c'est vrai que le fait d'avoir écrit mon manifeste me permet de voir que ça fait presque 20 ans que je suis dans la vie active. Et en 20 ans, j'en ai accumulé des expériences faciles, moins faciles. On a tous nos problèmes à gérer au quotidien. Et j'irais tracer la voie pour la Nièvre, c'est lui donner un avenir. Donc lui donner un avenir, c'est la structurer, c'est structurer son économie, ses filières, ses autoroutes, sa culture, sa vision, la tourner vers le numérique. Et je vous invite très sérieusement à lire mon manifeste que je pense réaliste eu égard à ce que je connais maintenant du département. Mais encore une fois, c'est vous les jeunes qui devez construire l'avenir de votre département. Et je pense qu'un homme politique est là pour donner des idées, mais également pour favoriser le collectif. Donc je dois être votre courroie de transmission. Et moi, je suis extrêmement favorable, une fois de plus, à ce que ces plateformes collaboratives émergent pour que les politiques puissent se rafraîchir, se remettre en question et puis des fois se faire un petit peu bousculer parce que vous avez vos idées et je pense que c'est bien. Alors après, avec l'expérience, on voit souvent que les idées s'amenuisent ou se maturent, mais en tout cas, votre jeunesse, c'est elle qui doit donner l'avenir au département.
Eh bien, merci infiniment, Guillaume Maillard, pour avoir donné votre temps et ses réponses à la jeunesse nivernaise.
Je vous en prie et à très vite.
Merci, monsieur Maillard, pour la majorité pour la France, qui représente le groupe UDI et les Républicains. Et monsieur Mohamed Laghrib, de la France qui ose, va nous accorder un peu de son temps pour répondre à ces mêmes questions. Bonjour, monsieur Laghrib.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bon, c'est avec plaisir, c'est normal.
J'aimerais savoir, par rapport à votre programme, que comptez-vous mettre en œuvre pour assurer un meilleur avenir aux jeunes sur le territoire ?
Dans un premier temps, il faut savoir que la formation est pour moi un outil à exploiter. Analysons la demande de la société, les attentes quant à l'économie et organisons pour les jeunes des formations pour répondre à cette attente et ainsi permettre l'emploi. Les jeunes, mais aussi les entreprises, sont bloquées. Leurs recherches ne trouvent pas de réponse. Il y a donc matière à travailler sur ce point et en faire ressortir une formation cohérente avec l'économie locale. Cette situation, c'est ce que j'appelle un bug sociétal. Nous avons des entreprises qui recherchent des personnels d'un côté et d'un autre des personnes qui recherchent un emploi et le taux de chômage qui ne cesse de grimper. Il faut cesser cela et répondre enfin aux attentes de chacun. La Nièvre ne manque pas d'idées, de dynamisme. Elle a simplement besoin d'accompagnement, de cohérence. Un autre exemple, lors d'un projet de création d'entreprise, les créateurs sont confrontés à un parcours administratif compliqué. Un accompagnement, un guide, un tuteur, peut-être le petit coup de pouce qui change tout et ouvre les portes. La Nièvre n'est pas dépourvue d'entrepreneurs bien installés et souhaitant faire bénéficier de leurs connaissances, leurs compétences et pourrait être la valeur ajoutée qui fera que ce projet prendra forme. Si l'on fait que chacun se rencontre, il pourrait bien en ressortir de formidables potentiels. De plus, cette fierté qu'il en ressort à la fois d'aider et d'être soutenu, c'est une dynamique bienveillante et pleine d'espoir. C'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, du soutien, et c'est à mon avis ce que nos retraités souhaitent, passer le relais et transmettre ce savoir. Il faut recentrer la société sur l'humain.
Et du coup, pour favoriser l'emploi des jeunes dans la Nièvre, vous favorisez donc la formation.
Exactement. Quand on parle de programme, je mène également une action au niveau local avec, en l'occurrence avec la mission locale, qui est un passeport d'accompagnement socio-éducatif personnalisé. C'est de construire un parcours personnel et collectif avec l'individu, avec les jeunes, pour pouvoir les emmener d'un point A à un point B pour construire avec eux le projet, leur projet.
Par rapport aux jeunes, justement, pour assurer des services du quotidien plus performants, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Je pense que déjà, dans un premier temps, il faudrait une meilleure communication parce que beaucoup d'outils et de moyens existent, mais très peu de jeunes en ont connaissance. Donc la première chose à mettre, c'est de faire un petit passeport qui permette de répertorier tous les partenaires et tous les outils qui existent à leur disposition pour pouvoir œuvrer au quotidien et faciliter leur quotidien. Et en l'occurrence, ce paramètre qui consiste à mieux communiquer fait partie du passeport d'accompagnement socio-éducatif personnalisé. C'est de les mettre en lien avec les différents partenaires qui leur permettent de les accompagner ou de les soutenir dans leur démarche.
Durant votre possible mandat, vous envisagez de vous entourer de collaborateurs, d'assistants, de citoyens pour accomplir votre mandat ?
Oui, bien sûr. Donc, les difficultés sont les citoyens qui les vivent au quotidien. Quel meilleur témoignage que le leur ? Je veux mettre en place une écoute pour que leurs paroles prennent enfin sa place dans les décisions qui sont prises pour l'avenir. On ne peut pas avancer, apporter des solutions si l'on ne connaît pas les problématiques. Je veux travailler dans la bonne intelligence. Donner du sens au projet pour tous, et pour cela, il faut écouter et entendre. C'est ce que je fais et je ferai. Je m'entourerai de collaborateurs répondant aux qualités et compétences nécessaires pour travailler et mettre en place les projets attendus, voulus par les citoyens. Je ne maîtrise pas l'aspect technique de toute chose. Aussi, je ferai appel à ceux qui en ont la maîtrise pour travailler vers le succès.
Quelles mesures pourriez-vous proposer pour favoriser les échanges entre les jeunes et les élus ?
Une chose toute simple, c'est se réunir et échanger. Cette communication se formaliserait par une réunion selon un calendrier établi, afin de suivre ensemble les projets présents et à venir. Mettre en place en quelque sorte une veille intelligente et constructive des jeunes citoyens.
De plus en plus de services s'orientent vers le tout numérique.
Oui.
Quelles mesures pourriez-vous proposer pour que l'ensemble des Français, et pas seulement des Nivernais, puissent avoir accès à Internet et à ces services publics ?
Au jour d'aujourd'hui, c'est de travailler avec les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, les accompagner, les soutenir et pouvoir leur apporter tous les moyens nécessaires à ce que le numérique soit développé sur tout le territoire. Et dans une des vidéos que j'ai partagées sur Facebook, c'est d'apporter un dispositif, de poser un texte législatif à l'Assemblée, de pouvoir permettre à chaque foyer de s'équiper en tablette ou en moyen numérique par le dispositif d'un financement sans intérêt. Donc je l'ai appelé la tablette à 1 euro par jour.
Par rapport justement à l'accès dans la Nièvre, il y a aussi des zones blanches. Quel programme prendriez-vous pour justement réduire ces inégalités?
Aujourd'hui, c'est de travailler avec Nièvre Numérique qui a travaillé sur ce sujet-là. Donc je fais partie des commissions qui ont tout un programme pour pouvoir développer le numérique sur tout le département et à donner un accès à Internet à ce niveau. Et c'est aussi de pouvoir travailler en direction aussi des opérateurs pour les, entre guillemets, les inciter à occuper ces zones blanches le plus rapidement possible. On ne peut pas faire sans les opérateurs et on doit faire avec et travailler ensemble.
Une question à propos de la loi de la moralisation politique. La fin de la réserve parlementaire a été annoncée. Comment allez-vous soutenir les associations, les entreprises et les agriculteurs locaux sans cette réserve?
Comment les accompagner? Comme je le fais depuis un certain temps, c'est de les accompagner au quotidien pour pouvoir être un facilitateur encore entre les associations entre elles, les entreprises et aussi avec les élus locaux qui les accompagnent au plus près. Mais c'est aussi de défendre aussi leurs projets au niveau national parce qu'au-delà de la réserve parlementaire, on peut les accompagner, les soutenir par d'autres, bien d'autres façons. Mais je pense que d'ici là, avant que la loi sur la moralisation puisse être appliquée, ce que je soutiendrai de tous mes voeux. On a encore quelques années devant nous.
Alors, certains de vos concurrents sont favorables à la baisse de la majorité pénale à 16 ans. Mais est-ce que ça serait pas plus simple de baisser l'âge de la majorité à 16 ans?
Aujourd'hui, l'âge de la majorité, c'est un vaste sujet. Il faut connaître les tenants et les aboutissants pour pouvoir se positionner. Oui, certes, il y a un paradoxe entre baisser la majorité pénale et la majorité de plein droit des jeunes. Donc, je pense qu'il y a un travail à mener en commission pour voir les conséquences d'une telle décision. Au jour d'aujourd'hui, je veux être l'état égout, je ne peux pas me positionner sans en connaître toutes les conséquences.
Parmi les propositions que j'ai pu lire, certaines compétences sont directement de la ville, du département, de la région ou de l'Europe. Oui. Pensez-vous pouvoir agir sur ces leviers localement?
On peut toujours le faire agir sur les leviers localement, comme je vous l'ai expliqué encore, en travaillant ensemble et en étant des facilitateurs. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur un projet global. J'ai vu beaucoup de projets d'événements qui sont d'intérêt général sur le territoire. Et malheureusement, à la même date, je vous prends un exemple tout bête, hein, le Festival du Mot et le Salon du Livre qui se passe l'un et l'autre, un à la Charité et l'autre à Cône-sur-Loire. C'est deux événements qui sont importants pour les territoires, pour le développement du tourisme. Et de mettre ça le même week-end, il aurait fallu travailler en amont pour que ces deux événements puissent profiter au plus grand nombre, à deux dates différentes par exemple. Moi, je veux travailler vraiment avec les différents élus et travailler sur vraiment un projet global.
Par rapport à la culture, vous venez d'en parler, comment faciliteriez-vous l'accès à la culture?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui le permettent par différentes aides, dont un passeport qui permet de pouvoir faciliter l'accès à la culture par des réductions, des partenariats, vraiment encore une fois travailler ensemble avec les diffuseurs culturels du territoire, pour pouvoir à la fois leur faire de la promotion et à la fois permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la culture.
Quelques questions de société. Êtes-vous pour la dépénalisation du cannabis?
Aujourd'hui, après ça à débattre, hein, pour être honnête avec vous, regardez la dépénalisation du cannabis, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets, j'irai même plus loin. Aujourd'hui, on parle de la cigarette, on parle de l'augmentation du tarif. Il y a vraiment une grande réflexion à mener sur toutes ces substances qui sont nuisibles à la santé et travailler sur un projet bien en amont et bien avec les différents acteurs, dont la santé, qui ont quand même un mot à dire à ce niveau-là. Et à recueillir leur avis, leur expertise pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le cannabis est utilisé dans certains pays pour des soins thérapeutiques. Donc ça a étudié.
Par rapport à la gestation pour autrui des femmes qui, malgré une assistance médicale à la procréation, ne peuvent pas avoir d'enfants, quel est votre avis?
Mon avis, c'est que c'est de rencontrer encore une fois, toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, d'échanger avec elles, de rencontrer également tout le monde médical qui permette de pouvoir nous donner un point de vue médical à ce sujet-là, et de pouvoir être des facilitateurs et de travailler dans le sens de l'intérêt. Je pense que chacun a droit à la dignité, chacun a droit au bonheur, et c'est de vrai en ce sens.
Pour conclure, quelle est la vision d'avenir que vous souhaiteriez proposer aux jeunes du département?
La vision d'avenir aux jeunes du département, c'est de pouvoir s'enrichir d'expérience, parce qu'on a une vraie richesse jeune sur le territoire, c'est de pouvoir s'impliquer sur le territoire et de le faire rayonner au-delà de nos frontières, parce que beaucoup de jeunes vont faire leurs études à l'extérieur et reviennent. Moi, j'étais parmi ces jeunes-là. L'autre conseil que j'aimerais aux jeunes également, parce que j'estime qu'ils ont quand même beaucoup d'éléments sur le vivre ensemble, ils ont appris à vivre avec les différentes rencontres qu'ils font au quotidien et qui les ont enrichis. Et c'est cet aspect d'aller vers autrui avec facilité qui peuvent enrichir notre territoire. Et également s'investir dans le monde associatif, le monde entrepreneurial également, pour pouvoir faire rayonner notre territoire. L'avenir, c'est eux.
C'était Mohamed Laghrib pour La France qui ose. J'espère que cette émission a pu vous éclairer un petit peu sur les orientations de ces candidats pour les prochaines années. Et nous vous retrouvons très prochainement dans les urnes et peut-être après.
Merci beaucoup, Damien.
Merci beaucoup.